Et la question qu'on vous posait hier était la suivante. Former les pilotes ukrainiens, est-ce une nouvelle étape pour l'Europe, oui ou non? Alors Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs de cette question du jour?
Alors, ils sont à 50-50 sur Facebook. Une majorité de oui sur Insta, 70-30, 70-30, et 100% sur Twitter. Donc, comme souvent, selon les réseaux, nos auditeurs ne sont pas d'accord et du coup, il vaut mieux qu'on demande à notre spécialiste son avis. On est avec Pierre De Jong, ancien colonel des troupes de marine et vice-président de l'Institut Témis. Bonjour. Alors, à votre avis, est-ce que former les pilotes ukrainiens, c'est vraiment une nouvelle étape pour l'Europe sur cette guerre en Ukraine?
Alors, au-delà de la formation, le problème, c'est la. Enfin, en tout cas, la question, c'est est-ce que l'Europe ou les États européens vont-ils fournir les avions qui sont demandés ardemment par le président Zelensky? Mais bien évidemment, encore une fois, dans la formation d'un pilote, il faut impérativement passer d'abord par la formation. Donc, c'est clairement une étape.
Justement, donc, les dirigeants du Conseil de l'Europe étaient réunis hier en Islande pour afficher l'unité de cette Europe élargie. Et le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont dit qu'ils voulaient bâtir une coalition pour livrer des avions F-16 à Kiev. Est-ce que ça veut dire que peut-être l'Europe va commencer par certains pays qui veulent bien livrer ces avions et les autres ne seront pas d'accord, ou il faut attendre qu'il y ait une unanimité pour que ça ait lieu?
Alors en fait, il y a une double question. Il y a une question politique et une question technique. La question politique, elle est en train de se résoudre progressivement. On voit que les États sont en train de se mettre en phase, comme on dit, à différents niveaux, bien évidemment. Et puis, ils se coordonnent avec les États-Unis parce que le F-16, c'est un avion américain. Et donc, il ne pourra pas être exporté, entre guillemets, sans l'accord des Américains. Donc, premier point, on voit bien que l'accord politique est déterminant, d'où le terme de coalition. Après, il y a le point de vue technique. Le point de vue technique est également très important parce que c'est le problème des stocks. Aujourd'hui, si vous voulez, les armées de l'air européennes principalement, elles n'ont pas des surnombres en avions, elles n'ont pas des centaines d'avions en trop. Donc aujourd'hui, on peut jouer que sur les stocks ou les avions entre guillemets déclassés. Je prends l'exemple des Français, par exemple, ils ont aujourd'hui le Rafale qui arrive en nombre dans les unités, et donc on peut éventuellement donner ce qu'on appelle les Mirages Tyriennes, donc l'avant-dernière génération quelque part. Donc c'est ça le problème, c'est la question du stock.
Alors, les États européens ont décidé de créer un registre international des dommages de guerre de l'invasion russe. C'est ce qu'a annoncé donc Emmanuel Macron à l'ouverture de ce sommet. Et donc, l'objectif, Pierre De Jong, c'est de rendre la Russie pénalement responsable de toutes ces destructions et des crimes qu'elle a fait en Ukraine.
C'est ce qui arrive toujours aux vaincus quelque part. Donc, encore une fois, la Russie, pour l'instant, n'est toujours pas vaincue. Mais clairement, si vous voulez, les Européens d'une façon générale, l'Occident d'une façon générale, se met en situation pour en fait réclamer des dommages et intérêts à la Russie. Et en fait, c'est comme après toutes les guerres, l'Allemagne, etc., à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, et même le Japon, si vous voulez, ils ont été forcés de payer des dommages et intérêts ou des dommages et réparations quelque part au pays qui a été agressé. Et les sommes vont être absolument colossales, bien évidemment.
Ah, vous pensez que c'est beaucoup plus l'économie que le moral qui est important pour les Européens dans ce registre international des dommages?
Alors, on va dire que c'est un processus. Et évidemment, bien évidemment, si vous voulez, les Européens se mettent en ligne. Et c'est vrai, c'est également une grande surprise. Et ça, c'est la grande surprise que Poutine a eue. C'est qu'en fait, les Européens ne se sont pas, entre guillemets, se sont pas séparés. Ils sont restés soudés face à l'agression russe. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, Poutine a eu exactement l'effet inverse. Et donc, en fait, il y a un processus qui se met en place, évidemment, qui concerne la question financière et économique avec les dommages et intérêts à l'État ukrainien. Mais également toute la partie de la justice, du TPI, du tribunal pénal international, également de tout ce qui peut se passer dans la suite, etc. Donc évidemment, l'arrivée potentielle de l'Ukraine au sein de l'OTAN et au sein de l'Union européenne. Donc il y a tout un processus global qui va se mettre en route, qui va durer de nombreuses années, bien évidemment.
L'Ukraine dit avoir repris 20 km carrés aux Russes. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes un ancien militaire, que en matière de stratégie, on est à un tournant dans cette guerre en Ukraine?
Alors, je ne parlerai pas de stratégie, je parlerai de tactique. Je ne parlerai pas de contre-offensive, je parlerai de contre-attaque. Et là, très clairement, en fait, les Ukrainiens ont quelque part, bon, ils sont en guerre depuis de nombreuses années, donc ils sont gérés, ils sont compétents, et on le voit tout de suite. On voit bien qu'ils ont attaqué dans une zone où, en fait, la Russie devenait faible. On voit bien le discours de Prigojine depuis quelques semaines, où il annonce très clairement qu'il n'a pas les munitions, il n'a plus les hommes. Et le message a été reçu 5/5 par les Ukrainiens. Et évidemment, ils vont aller là, où c'est faible. Et donc, ils ont tenté le coup, comme on dit, et ils ont percé. Alors, encore une fois, je pense que c'est un processus qui va s'engager, d'autant que la saison le permet. Et comme tout le monde parle d'une contre-offensive, moi que je ne vois pas arriver tout de suite, parce que je pense que les Ukrainiens ne sont pas encore tout à fait prêts, mais bien évidemment, on voit qu'il y a une tentative, en tout cas, il y a une tentation quelque part d'exploiter le front qui a été percé. Et on sait très bien, dans le conflit, dans la tactique, on sait très bien que celui qui est en mouvement, en général, a l'initiative, et quand vous avez l'initiative, vous bousculez celui qui est en défensive. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens sont clairement à l'initiative et clairement les Russes sont en défensive et donc en situation clairement inférieure.
On parlait hier dans les journaux de la possibilité que les États-Unis livrent un dôme de fer à l'Ukraine. Est-ce qu'à votre avis, c'est envisageable, c'est réaliste ?
Mais déjà, la livraison du Patriot qui s'est effectuée depuis quelques mois est effective. Puisqu'à l'origine, en Israël, le dôme de fer avait été créé avec le Patriot. Alors évidemment, les Israéliens l'ont perfectionné. Donc on peut très bien imaginer que déjà aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à Kiev, ou en tout cas les grandes villes, Kiev, et les Kiev particulièrement, est protégé par un dôme de fer. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, les missiles et tout le système, si vous voulez, de bombardement à base de drones des Russes n'est pas fonctionnel, puisqu'il y a une infime minorité des missiles qui touchent la ville de Kiev. Donc en fait, ce dôme est en place. Maintenant, pour créer un dôme sur l'ensemble de l'Ukraine, ça me paraît un peu compliqué, puisqu'il faudrait une quantité absolument incroyable de moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, le timing compte également. Donc je pense que progressivement, l'Ukraine mettra en place progressivement cette espèce de dôme de fer, financé évidemment par les États-Unis, par l'OTAN, etc., mais également la France et l'Italie, ils ont un système qui s'appelle le Mamba. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce de dispositif global qui va se mettre en place. Il va falloir le coordonner, mais bien évidemment, l'Ukraine va ou tend à devenir une zone qui sera, en tout cas, totalement ou partiellement protégée.
Le président tchétchène Ramzan Kadyrov a revendiqué la supériorité des chars russes par rapport aux chars qui sont fournis aux Ukrainiens par l'Occident. Quelle est votre opinion là-dessus ? C'est de la propagande ou il a raison ?
Vous savez, les chars ne valent que par la qualité des chefs de chars et des pilotes. Donc encore une fois, vous savez, les chars de dernière génération russes, le T-14, c'est un excellent char, entre guillemets. Et les derniers chars européens sont également très bons. Encore une fois, la valeur du blindé, évidemment, il y a des qualités techniques, mais c'est tous des 120 mm, c'est tous des engins qui tirent en roulant, c'est des engins qui ont des moyens de communication. En fait, ils se ressemblent énormément. Mais la grande différence, si vous voulez, d'abord, c'est que les blindés européens, visiblement le Léopard et l'Abrams, ils ont été fabriqués en très grande quantité, donc il y a des très grands stocks. Ça, c'est le premier point. Alors que le T-14 russe, aujourd'hui, c'est qu'un prototype, quelque part. En tout cas, il est en très faible nombre. Premier point. Et deux, on l'a bien vu que dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est que la formation otanienne, la formation des pilotes, la formation des chefs de chars, la formation collective, c'est-à-dire en fait des pelotons et des escadrons de chars, est bien meilleure du côté ukrainien que du côté russe. Donc, encore une fois, la valeur. Vous savez, un fusil n'est dangereux que parce que le tireur est dangereux. Mais l'arme en elle-même n'est pas dangereuse. Et donc, le blindé, c'est exactement la même chose.
Alors, ma dernière question, Pierre de Jong, elle sera sur les missiles, puisqu'il y a une hier sur le missile Kinjal, l'une des armes qui sont vantées comme invincibles par Vladimir Poutine. L'Ukraine a déclaré en avoir abattu 6, Moscou a démenti. Alors, ils les ont abattus, ils ne les ont pas abattus. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ?
Alors, aujourd'hui, on ne peut pas le savoir parce qu'encore une fois, les Ukrainiens n'ont pas montré les missiles qui avaient été détruits. Donc, ils ont considéré que c'était des Kinjal. Donc, je pense que là, on est quand même, n'exagérons pas, on est quand même dans la communication. Ceci étant dit, aujourd'hui, si vous voulez, la mise en place des Patriotes, qui est un excellent système, je dirais, anti-aérien, en tout cas, c'est un système sol-air, qui est destiné à détruire des missiles et bien évidemment des avions, il est extrêmement performant. Donc, il n'est pas improbable que les Ukrainiens aient réussi à détruire des missiles. Mais le Kinjal, c'est vraiment la quintessence du missile. Pourquoi ? Parce que c'est un missile qui est hyper véloce. Et donc, sa vitesse, si vous voulez, fait qu'il est quasiment indétectable. Et donc, ça le rend extrêmement dangereux. Donc, encore une fois, il faut attendre une forme d'enquête. En tout cas, il faut les preuves de la destruction d'un Kinjal. Ceci étant dit, les Ukrainiens aujourd'hui détruisent un certain nombre de missiles qui sont lancés sur les grandes villes ukrainiennes et les détruisent sans aucun problème. Ce qui veut dire que je pense qu'il y a effectivement des missiles détruits, mais peut-être pas le Kinjal, c'est ça que je veux dire. Maintenant, ça reste à prouver. On verra dans les jours et dans les semaines qui viennent.
Est-ce que Bakhmout, c'est vraiment le centre aujourd'hui de cette guerre en Ukraine ou ça va se déplacer à votre avis ?
Mais vous savez, Bakhmout, moi en tant que tacticien et stratège, si vous voulez, je ne comprends pas ce qu'ils font à Bakhmout. En fait, c'était l'espèce, c'est la cour de la récréation où en fait, c'est un endroit qui n'a vraiment aucun intérêt en termes de stratégique. Si vous voulez, c'est pas un nœud routier, etc. Donc en fait, c'est devenu une guerre symbolique. et globalement entre Wagner et l'Ukraine. Et donc l'Ukraine a fait ce qu'il fallait, mais l'Ukraine a eu beaucoup de pertes à Bakhmout, quasiment, j'estime, autant que les Russes. Donc si vous voulez, c'est quand même été un truc totalement destructeur pour un gain stratégique ou tactique relativement nul. Ceci étant dit, si les Ukrainiens reprennent tout ou partie de Bakhmout, c'est clairement un échec majeur pour la Russie, qui en avait fait une espèce de victoire symbolique. Et donc là, encore une fois, les symboles sont très importants, dans la guerre particulièrement, et le fait de perdre Bakhmout sera pour les Russes, si vous voulez, quasiment une espèce de coup de semonce, et peut-être le déclenchement ultime, peut-être, de cette fameuse contre-offensive ukrainienne.
Merci beaucoup, Pierre de Jonc, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien colonel des troupes de marine et vice-président de l'Institut Témis. Une très bonne journée à vous.
À bientôt, madame.